Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir avec vous, Xenia Zornoklé de la rédaction ukrainienne. À suivre les perspectives de reconstruction de l'Ukraine et les possibles investissements français. Pour la rédaction en cambodgien, Pizemam. Avec vous, l'espace de liberté d'expression qui se réduit de plus en plus au Cambodge, selon le dernier rapport de Civicus. Et Sori Ibrahim de la rédaction en mandankan. Et vous êtes en ligne de Dakar. Vous nous parlerez de la création d'une nouvelle coalition indépendantiste au nord du Mali. Ce qui fait la une de l'actualité, 5 ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'heure a sonné pour sa réouverture. La cathédrale renaît de ses cendres avec son histoire, son architecture, sa beauté, tout ce qui fait la grandeur de ce joyeux admiré dans le monde entier. En Afrique, comme ailleurs dans le monde, Sori Ibrahim, après l'incendie, la compassion avait été grande.
C'est exact, Philippe. On se souvient de ses discours à la nation de l'ancien président du Mali, Faye Ibrahim Boubacar Keïta, sur les ondes de la télévision nationale au lendemain de la tragédie, alors que la situation politique et sécuritaire de son pays était très tendue à l'époque autour de la question de la révision constitutionnelle, de la grève des enseignants et des massacres des civils au centre du Mali. Le président Ibeka n'avait pas manqué d'accorder une attention particulière à l'incendie de la cathédrale en invitant ses compatriotes à se joindre à la douleur de la communauté chrétienne qui pleure Notre-Dame de Paris. Et d'ajouter, je cite, « Les joyaux ravagés par le feu avaient traversé le temps. Ouvrir les bras au monde entier, aujourd'hui il appartient plus à une confession. Il est un trésor mondial, un patrimoine de l'humanité et l'humanité saura les restaurer comme elle fit hier avec les monuments de Tombouctou démolis dans un passé récent par la folie destructrice de ceux-là qui ne rendirent pas se faisant un quelconque service à notre islam vénéré. » Fin de citation. Au Burkina Faso voisin, l'ancien président Roch Marc Christian Kabore s'était aussi déclaré de tout cœur avec Emmanuel Macron, Anne Hidalgo et la population parisienne. Macky Sall au Sénégal avait aussi fait entendre sa voix sur ses réseaux en exprimant toute sa solidarité à la France et à toute la communauté chrétienne à travers le monde.
Ça, c'était donc il y a 5 ans. Aujourd'hui, la reconstruction est faite, la réouverture, c'est pour dans quelques heures. Comment réagissent justement les Africains maintenant ?
Philippe, il y a au moins 5 chefs d'État africains qui doivent prendre part à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Mais sur le continent, les réactions restent quand même modérées, surtout en raison de l'évolution politique du continent, avec notamment l'éloignement de certains pays de la France. Mais dans les milieux religieux, l'admiration pour la reconstruction de Notre-Dame est palpable. Hier, par exemple, l'abbé Jean-Paul Barrault, curé de la cathédrale de Notre-Dame de Lourdes à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, a témoigné sa fierté et son admiration sur RFI à Mandenkan. Cet éminent prêtre ayant servi pendant plus de 15 ans au Vatican connaît bien Notre-Dame de Paris et a exprimé sa profonde satisfaction devant l'achèvement de cette reconstruction symbolique.
Xenia, cette réouverture de Notre-Dame est un symbole fort de reconstruction, ce qui n'a rien d'anodin pour les Ukrainiens.
Oui, tout à fait, Philippe. En parlant de la réouverture de Notre-Dame, pour les Ukrainiens, la cathédrale est davantage un symbole culturel qu'un symbole religieux, car la majorité des Ukrainiens sont orthodoxes, avec une présence de gréco-catholiques dans l'ouest du pays. Bien sûr, l'incendie de Notre-Dame a choqué en Ukraine, et le flux impressionnant de dons pour la restauration du a également marqué les esprits. Pour les Ukrainiens, la réouverture de la cathédrale aujourd'hui porte beaucoup de symbolisme, surtout en sachant que des centaines d'églises et d'édifices religieux en Ukraine ont été détruits à cause de la guerre. C'est une lumière d'espoir pour une future reconstruction de ces monuments culturels. De plus, ce week-end, les Ukrainiens vont suivre également la cérémonie d'ouverture en raison de la visite de Donald Trump. C'est la première visite à l'étranger du président depuis sa réélection et chaque mot, chaque intervention attention et scrutée avec beaucoup d'attention en Ukraine, même lors de ses déplacements dans d'autres pays. Les Ukrainiens cherchent des indices pour comprendre à quoi s'attendre après le 20 janvier.
Et j'ajoute que Donald Trump sera reçu à l'Élysée demain avant la cérémonie à Notre-Dame et que Volodymyr Zelensky également sera reçu par le président français.
Tout à fait.
Pizemam, que représente la cathédrale Notre-Dame dans l'imaginaire cambodgien cette fois?
Oui Philippe, les touristes cambodgiens ayant la chance de venir à Paris connaissent très bien la cathédrale Notre-Dame. C'est un lieu incontournable lors de leur visite dans la capitale. Même si la grande majorité des Cambodgiens sont bouddhistes et ne sont pas très familiers avec la culture catholique, mais personne ne peut rester insensible face à la beauté harmonieuse de cette cathédrale avec une atmosphère spirituelle et mystérieuse. Beaucoup de Cambodgiens font le parallèle entre Notre-Dame et le temple d'Angkor Wat. Tous les deux sont des monuments religieux construits au XIIe siècle, plus ou moins aux mêmes périodes, même s'ils n'ont pas tout à fait la même dimension. Au-delà d'être des chefs-d'œuvre architecturaux, la cathédrale Notre-Dame et le temple d'Angkor Wat symbolisent un lien entre le passé et le présent. Le Cambodge serait inconsolable si une telle catastrophe frappait l'ensemble de monuments. C'est pour cela que les internautes cambodgiens ont témoigné beaucoup de sympathie et de solidarité à l'égard de la France.
Et bien sûr, sur Radio France Internationale, tout au long du week-end, vous pourrez suivre la réouverture de Notre-Dame.
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Il y a une semaine, des groupes séparatistes majoritairement Touareg ont annoncé la création du Front de Libération de l'Azawad, le FLA, un mouvement qui réclame l'indépendance d'une partie du nord du Mali. Alors ce nouveau groupe prend la suite du cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, le CSPDPA, après la perte de leur bastion historique, la ville de Kidal, face à l'offensive de l'armée malienne et de ses alliés russes du groupe Wagner. Eh bien les séparatistes ont trouvé refuge à Tinza Ouanten, près de la frontière algérienne. C'est précisément là, dans cette zone frontalière, que le FLA a été fondé. Sori Ibrahim, rédacteur en chef de RFI en Mandankan, que sait-on précisément de cette nouvelle coalition du FLA?
Alors Philippe, vous l'avez dit et vous l'avez mentionné, la création de cette nouvelle coalition fait suite à la dissolution du cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, CSPDPA, qui regroupait le mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, ACUA, une fraction du mouvement arabe de l'Azawad, MAA, ainsi qu'une partie du groupe d'autodéfense Touareg, Imrad et Alliés.
Parmi ces groupes, certains étaient proches de Bamako, les pro-gouvernementaux, hein, c'est ça?
Oui, Philippe, c'est important de les préciser. Lors de la signature de l'accord de paix en 2015 dans le cadre du processus d'Alger, les groupes armés étaient divisés en deux blocs. D'un côté, les ex-rebelles de la CEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, et de l'autre, les combattants pro-gouvernementaux regroupés au sein de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014, surnommée la plateforme. Cependant, des tensions internes au sein de la plateforme ont poussé certains de ses membres à rallier les camps séparatistes. Ainsi, le Front de libération de l'Azawad se compose d'une coalition hétéroclite avec une revendication claire, l'indépendance du territoire qu'ils appellent l'Azawad dans le nord du Mali. Selon plusieurs observateurs, dans le contexte actuel du Mali, avec les militaires au pouvoir à Bamako qui ont rejeté l'accord d'Alger en janvier dernier, adopté une posture offensive avec l'appui de leurs alliés russes et qualifié les rebelles de terroristes, les séparatistes n'avaient guère d'autre choix que de durcir leur position, s'unir ou disparaître.
Sori, ce nouveau front à peine formé a déjà subi de lourdes pertes dans ses rangs.
Oui, Philippe. En effet, 8 membres du Front de libération de l'Azawad ont été tués dans des frappes de drones de l'armée malienne peu après l'annonce de la formation du Front le week-end dernier. Et parmi les victimes figurent Fahad Al-Mahmoud, ancien secrétaire général du Gatia, ainsi que 2 cadres du Mouvement national de libération de l'Azawad et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad.
Est-ce que les pertes de ces membres risquent de freiner cette quête d'indépendance affiché?
C'est une question que nous avons posée à Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre d'études sécuritaires et stratégiques du Sahel. Je vous propose de l'écouter.
Que dit cet expert malien, Sori?
Docteur Ali Tunkara nous explique que les velléités sécessionnistes au Mali ne sont pas nouvelles. Certes, la perte de ses leaders est un coup dur pour les groupes rebelles, mais il ne pense pas que cela affectera gravement l'organisation. Selon lui, les séparatistes évoluent dans un environnement qu'ils maîtrisent bien, où ils parlent les mêmes langues et peuvent compter sur un soutien logistique et financier important de part et d'autre. Cette situation pourrait tout de même décourager certains, mais docteur Tunkara estime qu'il est difficile de dire que cela mettra fin au conflit avec Bamako. Et j'ajoute, Philippe, le Front de libération de l'Azawad, dans un communiqué publié après la mort de ses membres, a affirmé qu'il était décidé à faire aboutir par tous les moyens légaux et légitimes les bien fondés de sa cause. De son côté, les militaires au pouvoir à Bamako voient la reconquête du territoire malien comme l'un de leurs principaux objectifs.
En ligne de Dakar, Sori Ibrahim, rédacteur en chef de RFI en Mondankan. En Ukraine, c'est toujours la guerre, mais il commence déjà à être question de l'après, l'après-guerre, la paix et donc la reconstruction du pays. Ksenia Jornoke de la rédaction ukrainienne, vous avez assisté à la grande conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui s'est tenue à Pologne, à Varsovie, le mois dernier. Alors, à quel stade se situe aujourd'hui ce processus de reconstruction?
Alors, c'est déjà la quatrième conférence internationale, ça s'appelle Rebuild Ukraine, et cette fois-ci, elle a réuni plus de 5500 participants de 32 pays pour discuter des projets de reconstruction de l'Ukraine et avec l'objectif principal attirer des financements internationaux pour soutenir l'énergie et les infrastructures critiques endommagées par la guerre. L'événement comprenait 7 conférences et 6 ateliers. Les communautés locales ont présenté 130 projets issus de 17 collectivités ukrainiennes pour attirer des investisseurs. Donc, en fait, d'un côté, nous avons eu des discussions autour des opportunités en Ukraine, des possibilités d'assurance pour les investisseurs, des aides européennes. Et de l'autre côté, des propositions concrètes venant de villes et des régions avec des projets tout prêts. Parmi les 538 entreprises exposantes figuraient des géants comme General Electric, Samsung, Siemens ainsi que 63 entreprises ukrainiennes.
Et il y avait des entreprises françaises.
Tout à fait, Philippe. La France reste un partenaire incontournable dans le processus de reconstruction du pays. Pendant ces 2 jours, j'ai pu constater l'engagement remarquable des entreprises françaises. Tout d'abord, il est important de souligner que 180 entreprises françaises opèrent déjà en Ukraine, donc 75% sont présentes depuis plus de 15 ans. Même après le début de l'invasion en 2022, elles n'ont pas quitté le territoire. Elles emploient actuellement plus de 25 000 personnes et continuent de garantir les salaires, même pour les employés réfugiés dans les pays voisins comme la Pologne ou la Roumanie.
Et puis il y a cet investissement massif des Français dans l'achat de LifeCell. C'est le troisième opérateur de téléphonie mobile en Ukraine.
Tout à fait. Et d'ailleurs, cet investissement est l'un des plus importants en Ukraine depuis des années. De plus, 2 banques françaises figurent parmi les 5 plus grandes banques opérant en Ukraine, ce qui montre un fort niveau de coopération économique. Le pavillon français était particulièrement impressionnant avec une 50aine d'entreprises présentes ainsi que des institutions telles que Business France et la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'est notamment grâce au programme d'immersion de Business France que les entreprises françaises peuvent dès aujourd'hui s'intégrer au réseau de grands investisseurs pour la reconstruction post-guerre en Ukraine. En septembre dernier, le premier voyage d'immersion a déjà été organisé et il a permis aux 8 entreprises sélectionnées de se rendre en Ukraine et de rencontrer leurs partenaires potentiels sur place.
Ça veut dire qu'il est déjà temps d'investir en Ukraine ou est-ce qu'il faut attendre la fin de la guerre?
Alors, nous avons pu parler avec François Riquet, le directeur du développement international de la société française Socotec. Il s'est rendu en Ukraine en septembre dans le cadre de ce programme d'immersion. Son entreprise est leader dans le contrôle qualité de construction avec une histoire qui résonne fortement avec la situation actuelle de l'Ukraine. Elle était fondée après la Seconde Guerre mondiale pour sécuriser les bâtiments en France. Elle met aujourd'hui son expertise au service de l'Ukraine, notamment en proposant de moderniser des normes de construction pour les aligner sur les standards européens. Donc j'ai posé cette question, j'ai demandé à François Riquet si c'est le bon moment d'investir en Ukraine et voilà ce qu'il m'a répondu.
La vraie reconstruction, peut-être je me trompe, hein, voilà, mais elle viendra vraiment en période de paix, là où en fait tous les investissements et tout le, j'allais dire, les fonds européens, etc., vont réellement s'ouvrir à l'Europe et que tous les investisseurs vont arriver.
Donc on voit clairement que la vraie reconstruction commencera dans les temps de paix. Mais les sociétés commencent déjà de prospecter, de se préparer, de bâtir des liens stratégiques avec des partenaires sur place. Mais le message principal que nous avons entendu pendant toute la conférence était clair. Attendre la fin de la guerre pour investir serait une erreur stratégique. Agir dès maintenant aide à soutenir l'économie ukrainienne tout en construisant une relation de confiance avec les partenaires locaux. Voilà.
Les entreprises qui s'engagent aujourd'hui seront en tout cas en avance lorsque la reconstruction commencera à grande échelle. C'était Xenia Jean-Noclé de la rédaction ukrainienne de RFI. L'ONG Civicus Monitor vient de publier un nouveau rapport sur l'état de la répression de la liberté dans le monde. Et en ce qui concerne le Cambodge, eh bien il ressort que l'espace de liberté d'expression est de plus en plus réduit. Pi Zeman, de la rédaction cambodgienne de Radio France Internationale, expliquez-nous en détail ce qui concerne justement le Cambodge.
Oui Philippe, pour cette année, le Cambodge n'a obtenu la note que de 27 sur 100, ce qui classe le pays parmi les pays où la liberté est sous menace grave. À titre de comparaison, les pays voisins comme le Vietnam et le Laos, tous les deux communistes, ont obtenu les scores respectivement 10 et 6, considérés comme pays très fermés. Explication, toutes les lois sur l'incitation ont été utilisées au Cambodge comme prétexte pour cibler les défenseurs de droits humains. En avril 2024, par exemple, Kat Sarai, président de l'Association des étudiants et intellectuels Khmer, a été détenu après avoir rencontré les villageois à la suite d'une expulsion forcée. En juillet 2024, 10 militants du groupe environnemental Mother Nature ont été condamnés pour insulte au roi et complot. Cette ONG Mother Nature qui a obtenu le prix Rail Livelihood à Stockholm en 2023.
Philippe. Alors, cela dit, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau Premier ministre, Hun Manet, rien ne semble donc s'améliorer.
Oui, Philippe, selon le rapport Civicus, le chef du gouvernement Hun Manet, qui a succédé à son père en août 2023, a poursuivi son attaque contre les libertés fondamentales en ciblant les défenseurs de droits humains, dont les militants de l'environnement et des droits à la terre, ainsi que les syndicalistes. Des membres de l'opposition ont été arrêtés, harcelés et agressés en toute impunité. La loi sur les associations et les organisations non gouvernementales continue d'être utilisée comme une arme pour réduire la société civile au silence. Le journaliste Mike Dara, lauréate du prix décerné par le département d'État américain, a été brièvement arrêté. Il a été contraint d'abandonner le journalisme pour pouvoir garder la vie sauve. Et selon Cambodia, une autre ONG défendant le droit à l'information libre au Cambodge, au moins 11 journalistes indépendants ont été menacés ou arrêtés pendant les 3 derniers mois.
Il y a pire.
Oui, il y a pire encore. À la suite de la diffusion, il y a 2 semaines, un reportage de France 24 sur la déforestation massive au Cambodge. Les autorités cambodgiennes ont arrêté 6 militants environnementaux, dont au moins 2 qui ont donné le témoignage dans le reportage de France 24.
France 24, la cousine de Radio France Internationale. Donc vous le disiez, rien ne s'arrange au Cambodge, alors que vous êtes déjà intervenu sur la situation des libertés au Cambodge, et c'était déjà difficile. Donc avec le changement de nouveau Premier ministre, c'est pire, c'est bien ça.
C'est encore pire parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus comment le pouvoir continue à utiliser les réseaux sociaux pour
réprimer toute liberté d'expression. Pour Exactement. Autant, c'est par les réseaux sociaux que ceux qui veulent raconter ce qui se passe dans leur pays aujourd'hui peuvent espérer le faire, même s'ils peuvent être très rapidement repérés.
Exactement, mais justement, ces derniers mois, on a vu même les villageois qui ont osé critiquer à travers des posts de critiques sur les réseaux sociaux, ils ont été tout de suite arrêtés et menacés, et ils se sont obligés de faire des déclarations publiques pour justement demander le pardon au parti.
Pi Zeman de la rédaction cambodgienne de RFI, c'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur l'application et sur le